France Inter.
It's morning edition from NPR News.
Ben City's and in the house.
Halia Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
Faut pas changer de radio.
France Inter. Le 18-20. François Geffrier.
S'il y a un jour où on aimerait que les armes se taisent, c'est bien le jour de Noël et aussi au lieu du fracas du monde. C'est un peu de musique qui se faisait entendre, alors on aurait tout gagné. Il est certain qu'on n'arrête pas les guerres parce qu'on écoute Brahms ou Beethoven. Mais notre premier invité en a fait l'expérience dans toutes les salles de concert du monde et aussi bien loin des temples du classique. La musique est un langage qui parle en direct au cœur et peut donc faire dialoguer. Dans Le Monde à l'endroit, Louise Baudet évoquera la colonisation en Cisjordanie, l'État d'Israël sous une pression toute relative de ceux qui l'appellent à stopper les projets. Le reportage aux États-Unis sur la ferveur autour d'un film culte, Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, toujours efficace 50 ans après sa sortie.
Les Dents de la Mer, c'est comme un vieil ami pour moi. Le film nous embarque dans toute une gamme d'émotions sans qu'on s'en rende compte. C'est rare au cinéma qu'un film soit parfait. Et ce film est parfait.
C'est sûr. Il y a aussi le Danan Danan de Steven Spielberg, c'est deux notes. C'est sur ces lieux du tournage que nous emmène Anne Lamotte aux États-Unis, une petite île du Massachusetts. Dans Sous les radars, Alice Moreno remonte la filière d'un produit théoriquement introuvable en Russie, mais qu'on y boit toujours, ça s'appelle le Coca-Cola. Et puis la tech, la première, c'est la chronique de Stéphane Jourdain ce soir à la rencontre des travailleurs humains qui apprennent à l'intelligence artificielle tout ce qu'elle doit savoir. Un jour dans le monde tourne toujours, même le jour de Noël. C'est parti.
Dans la rue, on marche, on a des murs avec des photos de personnes tombées au front. Donc voilà, tout ça, j'étais complètement bouleversée et j'étais très fragile émotionnellement. En tout cas, j'étais traversée par plein d'émotions différentes et
toutes
il fallait jouer.
L'émotion gravée dans la mémoire de cette joueuse de viol de gambe, Salomé Gasselin, après avoir participé à un concert en Ukraine, pays en guerre, c'était il y a quelques semaines. Nous sommes le 25 décembre et le jour de Noël est traditionnellement associé à la paix, ça ne va pas de soi, je vous l'accorde, à voir la longueur de la liste des conflits à vif. Mais parfois des trêves sont annoncées, parfois les armes se taisent d'elles-mêmes quelques heures. Alors un parti pris dans Un jour dans le monde ce soir, quand la diplomatie patine, quand les langues ne se comprennent pas, est-ce que la musique peut jouer le rôle de médiateur? Pour y réfléchir concrètement, nous sommes avec un polyglotte de la musique. Bonsoir et joyeux Noël, Jean-Claude Casadesus.
Bonsoir cher ami, joyeux Noël à vous et à tous vos auditeurs.
Et merci d'être sur France Inter en direct, chef d'orchestre, fondateur il y a un demi-siècle de l'Orchestre National de Lille. Est-ce que à vous aussi, Jean-Claude Casadesus, Noël, ça évoque une possibilité de paix, même une toute petite étincelle?
Oui, Noël, mais pas seulement Noël. Je veux dire, c'est toute l'année et toute la vie qu'il faut essayer de lutter pour des possibilités de paix. Et vous parliez de la musique, je crois qu'on n'a pas encore éprouvé, totalement épuisé toutes les vertus de la musique dont j'ai pu constater les effets extraordinairement bénéfiques au cours des 45 pays dans lesquels j'ai eu le privilège de diriger.
Et pour autant, on ne va pas verser dans la naïveté ce soir, faites la musique, pas la guerre. La musique n'arrête pas les guerres, il ne suffit pas d'écouter un morceau de Mozart pour tout d'un coup devenir doux comme un agneau.
Alors je vais vous dire une chose, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Abraou, qui au Venezuela, dans les années 70, a eu l'idée dans ce pays d'une grande violence, comme vous le savez, où les enfants, se zigzaguaient entre les balles qui tiraient dans tous les coins. Il a eu l'idée de créer une institution musicale où la collectivité permettait aux enfants, ça a pris un certain temps, mais il a aussi mobilisé le fonds public, les fonds publics, pour en effet créer un orchestre d'où sont sortis de remarquables musiciens, dont le jeune chef d'orchestre Doudamel, qui fait une carrière internationale. Et je crois vraiment... Il n'y a pas que cet exemple qui doit nous servir. Je dis toujours que, bon, je ne veux pas parler de mon exemple personnel, mais j'ai eu l'occasion au cours de ces 40 ans, avec toute mon équipe, on s'occupait environ de 15 000 enfants par an.
Oui.
Et j'ai eu des témoignages qui m'ont prouvé que la musique, la pratique d'un instrument, l'émotion que transmet la musique a permis à beaucoup d'enfants, qui sont devenus d'ailleurs des jeunes gens et des hommes, ils m'en ont fait le témoignage. Je vous raconterai une anecdote si ça vous amuse.
Je vous écoute.
Plusieurs.
Bien sûr.
Écoutez, la musique, bon, je commence dans le désordre parce que, en effet, ça se bouscule un peu dans ma tête. Un jour, on est à Dunkerque avec, je vais dans une école proposer un peu de musique à des enfants, leur faire entendre des chefs-d'œuvre merveilleux qu'on côtoie nous tous les jours. Et alors, il y avait un petit enfant qui était là, qui fermait les yeux. Et alors, je lui dis, tu fermes les yeux et qu'est-ce que ça te fait la musique? Et il me dit avec un air absolument extatique, je vois des sous qui volent.
Des sous qui volent, de l'argent.
Oui, mais de l'argent, parce que c'était, pour ne rien vous cacher, c'est beaucoup dans les pays, dans les endroits défavorisés que je me suis attaché à porter de la musique, ouais. D'abord au début, puis alors évidemment pour tous les publics. Un autre enfant, un jour à l'hôpital de Lens, autiste, qui n'avait jamais ouvert la bouche, on lui joue une petite valse viennoise, il était un peu comme ça, il était...
Renfermé, peut-être.
Renfermé en lui-même. Oui. Il disait pas un mot, il était agressif. Et tout d'un coup, il s'éclaire et il se met à battre des mains. À l'audition, alors les infirmières pleuraient, le médecin était complètement submergé d'émotions. Et il y a quelques années, assez récemment, je vois un grand jeune homme s'approcher de moi et me dire, c'était chez le préfet qui m'avait invité pour les vœux, c'était oui. Justement la même période. Il me dit, écoutez, je suis Mohamed, vous ne me reconnaissez sûrement pas, et mon frère Areski, vous nous avez contacté, vous vous êtes jumelé avec notre école il y a très longtemps. Areski, on était deux petits chiens perdus sans collier. Areski a fait le sub de co et moi j'ai fait Sciences Po, je suis le bras droit du préfet. Et c'est à la musique et à vous qu'on le doit. Donc alors, j'en ai un paquet comme ça, mais on va pas passer l'émission.
C'est déjà
là-dessus.
De bonnes anecdotes, Jean-Claude Cazatu. Ça, c'est pour quelque part votre parcours et le fait que vous avez amené la musique en France et autour de l'Orchestre National de Lille, dans tout le Nord-Pas-de-Calais, dans tous les Hauts-de-France. Qu'en est-il de votre expérience de chef mondialement connu qui a voyagé dans. Parce que quand on parle de langue commune, on n'a pas tous les mêmes références. Et d'ailleurs, les gammes, la musique, les tonalités ne sont pas construites pareilles entre la musique savante à l'européenne et puis ce qu'on trouve en Afrique, en Asie. Et pourtant, vous avez là aussi des anecdotes, des expériences de gens à qui la musique que vous avez jouée a révélé quelque chose d'intérieur.
J'ai porté mon orchestre sur quatre continents. Hein, nous avons été dans les pays occidentaux, mais aussi au Japon, en Chine... Et en Afrique noire. J'ai été, je crois, le premier orchestre symphonique à emmener 100 musiciens en Afrique noire, dans 5 pays d'Afrique noire. Continent extraordinairement musical, mais musique instinctive, musique votive, et nous, on apportait de la musique savante. Et si vous voulez, dans tous les pays où j'ai pu diriger, jamais je n'ai rencontré le moindre rejet. Mmh. C'est tout à fait étonnant de voir à quel point, par exemple, Lagos, une des villes les plus violentes du monde.
Nigeria.
On arrive avec 4 heures de retard. Dans la salle, il y avait une assemblée de boubous très disciplinés, très attentifs, qui ont entendu Offenbach, Beethoven, Varèse. Et vous voyez, je vous donne des exemples de musique vraiment qui ne sont pas toutes, comme pourraient dire certains pseudo-exégètes de la première facilité.
Oui, mais c'est pas que des tubes.
Mais non, pas
Varèse
que des tubes.
Varèse est beaucoup moins connu, a priori, qu'Edgar Varèse, donc compositeur français de la première moitié du XXe siècle.
Une anecdote, si vous voulez.
Oui, et puis ensuite, on écoutera quand même un tout petit peu de musique, Jean-Claude Cazatu.
J'écouterai de la musique, bon, alors je me dépêche. on est à Abidjan. On vient de jouer une symphonie de Beethoven, on vient de jouer une ouverture d'Offenbach, la création de Haydn, des extraits avec les chœurs qui avaient travaillé dans leur village. Et puis, à la fin, à l'ambassade, s'approche de moi une femme de diplomate et me dit « Ah, mon cher maître, ce Beethoven, quelle joie, c'était vraiment formidable. Mais je me demande ce que ces braves noirs ont pu comprendre à Varèse. » Et à ce moment-là, s'avance un ministre plénipotentiaire noir et qui me dit « Ah, Beethoven, tu sais, c'est pas tellement notre culture, mais Varèse, ça nous a rappelé les combats de crocodiles dans la savane. » Incroyable. Et ça nous parlait. Donc tout ça pour vous dire que c'est subjectif, la musique, oui. Mais que
chacun
en tout cas, chacun y apporte ce qu'on reçoit. C'est ce que disait Malraux. On peut être tenté d'aimer que le mot art puisse donner à des gens le sens de la grandeur qu'ils ignorent en eux.
J'aimerais qu'on vienne à une image, mais aussi un son qu'on va écouter évidemment, lorsque vous dirigez au Maroc, à Rabat, 3 chanteuses et chanteurs de 3 confessions différentes. C'était devant le roi du Maroc et le pape François à l'époque, en 2019.
Allah, 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 All
personnes, chrétiennes, juives, musulmanes, avec cette réinterprétation, cette revisite de l'Ave Maria de Caccini, mais là il était aussi question de foi musulmane, de foi juive. C'est assez audacieux cette démarche. Est-ce que ce moment que vous avez vécu à la baguette en 2019, est-ce qu'on peut le multiplier, le refaire aujourd'hui au Maroc ou ailleurs, ou est-ce qu'il faut quelque chose d'exceptionnel comme la venue d'un pape dans un pays ?
Mais non, mais on peut toujours faire quelque chose qui corresponde à l'union entre les hommes. Un artiste, c'est en principe quelqu'un qui a une parole d'amour, et grâce soit rendue au roi du Maroc qui, dans son désir œcuménique, s'est mis d'accord avec le pape François pour en effet cette réunion des trois religions monothéistes, mais c'est valable pour toutes les, je crois, pour toutes les assemblée. Je crois qu'on n'a pas encore épuisé toutes les vertus, oui, je dirais, bénéfiques de l'émotion musicale. C'est quelque chose de transcendantal. Je ne dis pas, voilà, mais il faut que dans les écoles aujourd'hui, il faut absolument... Il n'y a aucune délinquance dans les écoles de musique. Ça veut dire quelque chose quand même.
Ça veut dire que
pour la réalisation d'un désir, les enfants comprennent. Moi, je les ai placés à côté de mes musiciens. Ils ont vu que la pédagogie de l'erreur qu'on leur enseigne à l'école, tu recommenceras jusqu'à ce que ce soit bien, nous l'appliquons tous les jours.
Oui.
Et pour l'accomplissement de leur désir, ils comprennent que seule la rigueur y parvient, et ils n'ont pas le temps de faire des bêtises. Et je crois qu'on n'a pas encore, c'est plus le pipeau qu'on enseigne, Dieu merci, dans les classes de solfège de l'école, pas uniquement, mais je crois qu'il faut s'interroger sur la capacité extraordinairement bénéfique de la transmission de l'émotion musicale. Mais c'est, j'assure, je crois profondément que l'éducation nationale, nos gouvernements, la ministre de la Culture devraient y réfléchir profondément.
Cette démarche que vous avez eue en 2019, ça fait penser à l'orchestre West Eastern Divan Orchestra, créé par le chef Daniel Barenboim,
avec
il y a
Saïd,
25
oui.
ans, avec des instrumentistes israéliens et palestiniens. On imagine que chaque concert est un moment suspendu. Qu'est-ce que ça permet, au-delà de ces 80 musiciens et des quelques milliers de personnes qui vont les voir et les applaudir ?
Mais la collectivité, d'un effort en collectivité, le rapport à la beauté, le rapport au chef d'orchestre, le rapport collectif de la transcendance de soi-même. Qu'est-ce que c'est, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un artiste ? C'est quelqu'un qui essaye d'aller au-delà de lui-même et de s'approcher au fond de la métaphysique, c'est-à-dire de l'au-delà du réel. C'est une part d'humanité fondamentale dans ce monde déshumanisé. Il n'y a pas la subversion des mots dans la musique, et jamais je n'ai rencontré le moindre, comme je vous le disais, la moindre réticence face à la musique dans le monde entier. 45 pays, hein, j'ai visité 45 pays avec la bonne parole musicale.
Là, dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, on parlait de la liste des conflits, quelle serait la bonne recette musicale si vous deviez, là, sur un bout de table, dessiner dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, imaginer un concert, un lieu, un instrument, un compositeur? Ça pourrait ressembler à quoi? Allez, on est en train d'écouter Malheur et sa symphonie numéro 2.
La résurrection.
Vous savez,
ça m'émeut beaucoup de l'entendre, parce que je l'ai enregistré en direct 8 jours après.
C'est votre version qu'on écoute là.
Ah oui, il me semble.
Avec l'Orchestre National de Lille.
8 jours après l'attentat du Bataclan. Vous voyez, j'ai pris la parole pour dire qu'on ne se coucherait pas devant la barbarie et qu'en effet, la musique peut unifier les âmes. Et ça a été l'occasion dans plein de circonstances. J'ai pas une recette absolue, mais je crois que l'éducation, que la transmission peut complètement élever. Vous savez, Dostoïevski a dit « la beauté sauvera le monde ». Je crois qu'en effet, les harmonies de la musique peuvent contribuer aux harmonies de l'esprit.
Il y a un tube quasi universel dans la pop culture, c'est « Imagine » de John Lennon. Et on peut aussi prendre, là c'est plus une image qu'un son, parce que le son est de très mauvaise qualité, le mur de Berlin, novembre 1989, et au lendemain de la chute du mur, un violoncelliste, Rostropovitch, qui amène son
qui a fait la création avec moi de mon orchestre, premier concert.
Et puis on me signale que monsieur Rostropovitch, qui se trouve précisément à Berlin-Ouest, ici à Checkpoint Charlie, va jouer, se prépare à jouer.
Voilà, et on se tait.
Alors ça, pour la petite histoire, c'est la suite numéro 3 de Bach pour violoncelle, la Sarabande, pour ceux qui veulent écouter une version mieux enregistrée en studio. C'est un coup d'éclat.
Il faisait froid,
commode
de s'accorder.
C'est filmé par une caméra un peu lointaine. C'est un coup d'éclat, c'est un coup de génie, c'est
non, mais vous avez la réponse à votre question. La musique, elle est vraiment universelle. Il n'y a pas la subversion des mots, et c'est... Là, c'était devant Berlin.
Oui.
Moi, j'ai fait un certain nombre de concerts que vous avez évoqués. J'en ai aussi fait à Bethédine, Lavigne dans le Chouf, où on se massacrait quelques années auparavant, devant un requiem de Verdi, devant les Druzes, les musulmans, les athées, les chrétiens, les juifs. Et y a, c'est quelque chose de formidablement unifiant et unificateur.
Et j'ajoute
on n'a pas assez de temps pour que je vous développe tout ce à quoi je crois.
C'est déjà fini. C'est déjà fini, mais je vais quand même citer deux choses. Le chemin le plus court d'un cœur à l'autre, ça c'est
à
le titre.
À un autre.
Le chemin le plus court d'un cœur à un autre. Le titre de votre livre paru en 1997, parce qu'on est sans doute plus cash dans la musique. Et puis j'ajoute que vous dirigez Verdi, Ravel et Berlioz dans un mois pile, 25 janvier, avec au piano sur le plateau du Théâtre des Champs-Élysées à Paris, Thomas Enko, votre petit-fils. Un immense merci, en tout cas.
Je vous remercie, mais ça aussi c'est la transmission. Vous voyez, ça me gratifie au plus haut niveau.
Évidemment. Un immense merci d'être venu en direct en ce jour de Noël dans le studio de France Inter. Et
merci
très bonne
à
fin
vous
d'année.
De tout cœur.
La suite d'Un jour dans le monde, c'est avec vous, Louise Bonnet. Bonsoir.
Bonsoir François.
Et c'est Le Monde à l'endroit.
Le Monde à l'endroit, privé ce soir encore d'esprit de Noël. Je vous parle de la Cisjordanie, où Israël flirte avec la ligne rouge de l'annexion sans provoquer autre chose que de simples déclarations.
Et d'abord, on redonne sa place à la musique. On écoute Obong Jayar, Give Me More sur France Inter.
Am I your first position? You say I'm all you're needing, then you just come up missing. Keep it consistent with me, baby, stop playing with me. Don't bring me down on my knees, I can't keep going like this. Give me more, I need more. Give me more, I need more. Give me more, I need more. Give me more, I need more.
Sur France Inter, Give Me More, chanson sortie cette année, signée Obong Jayar, artiste nigérian, aujourd'hui basé à Londres.
How dare you?
The world has changed.
Le 18-20. François Geffrier.
Voici Le Monde à l'endroit avec Louise Bonnet. Pourquoi Israël étend ses colonies en Cisjordanie sans craindre grand-chose de la communauté internationale?
Oui, 19 nouveaux coups de canif dans une carte toujours plus morcelée. 19 nouvelles colonies créées en Cisjordanie, c'était le week-end dernier, au mépris du droit international et de cet appel, un de plus, resté lettre morte. Appel lancé par 14 États, dont la France, pour que cesse l'expansion des colonies israéliennes. Mais qui croit encore à ces injonctions jugée moralement répréhensible par le gouvernement de Benjamin Netanyahou au nom du droit des Juifs à vivre en terre d'Israël. L'extrême droite israélienne, membre de la coalition au pouvoir, le revendique. L'annexion de la Cisjordanie est un moyen d'étouffer dans l'œuf tout espoir d'un État palestinien. Et cette annexion progressive ne prend même pas la peine de se faire à bas bruit. Depuis 60 ans, tous les gouvernements israéliens, de gauche comme de droite, ont colonisé le territoire palestinien. Mais le mouvement s'est accéléré sous l'actuel gouvernement. gouvernement, en particulier depuis le début de la guerre à Gaza. 140 colonies il y a 3 ans, 70 de plus aujourd'hui.
Et sur place, le niveau de violence est inédit.
Oui, les reporters sur place, notamment ceux de Radio France, documentent les exactions des colons israéliens extrémistes et racontent les incursions de l'armée, les frappes, les morts et les destructions qui s'accumulent, y compris à Jérusalem-Est, où les bulldozers israéliens ont détruit cette semaine un immeuble hébergeant une douzaine de familles palestiniennes au motif qu'il avait été construit sans permis. Et tout cela n'est un sujet ni pour l'opposition politique à Benjamin Netanyahou, ni pour l'opinion publique israélienne, ni même pour la fameuse communauté internationale.
Oui, il y a 2 mois, le Proche-Orient était pourtant au cœur des préoccupations mondiales.
Oui, c'était le temps du triomphe pour Donald Trump, le temps d'une promesse de paix perpétuelle lancée à Sharm el-Sheikh en Égypte. Le président américain acclamé par des chefs d'État venus soutenir son plan pour Gaza imposé aux forceps. Un plan faisant l'impasse sur la Cisjordanie, malgré l'enjeu qu'elle représente pour la création d'un État palestinien. 2 mois plus tard, la phase 2 du plan de paix, la plus complexe, n'a pas commencé, alors qu'elle était espérée pour avant Noël. Le président américain serait-il passé à autre chose? En tout cas, il estime avoir d'ores et déjà établi la paix au Moyen-Orient pour la première fois depuis 3000 ans. Il l'a redit cette semaine et il ne manquera pas de réaffirmer son soutien à l'allié indéfectible de l'Amérique, Benjamin Netanyahou, qui lui rend visite lundi prochain.
La colonisation est tout de même condamnée par une grande majorité d'États, y compris en Europe. Ça reste purement verbal.
Alors, il y a bien eu des sanctions européennes contre Israël depuis le 7 octobre. L'arrêt notamment de certaines livraisons d'armes, mais jamais l'accord d'association entre l'Union européenne et l'État hébreu n'a été remis en cause. Cet accord de libre-échange, il est pourtant capital pour Israël. L'Europe est son premier partenaire commercial. La Commission de Bruxelles a bien évoqué l'idée de revoir cet accord, mais l'affaire n'a jamais été soumise au vote des chefs d'État européens. Et pour cause, les 27 sont divisés entre les réticences de l'Allemagne, de la Hongrie, de l'Autriche et les demandes pressantes de l'Espagne ou de l'Irlande. Les liens avec l'État hébreu sont lestés d'un poids de l'histoire inégal selon qu'on vit à Berlin ou à Dublin. Résultat, Israël peut flirter avec la ligne rouge de l'annexion sans provoquer autre chose que de simples déclarations.
Merci Louise Baudet. Louise Baudet pour Le Monde à l'endroit. On dit que c'est le premier blockbuster de l'histoire, vous avez déjà reconnu ces deux notes. Les Dents de la Mer de Steven Spielberg fête ses 50 ans. Le film tourné sur une petite île du Massachusetts, Martha's Vineyard, qui organisait il y a quelques mois, en juin, un festival autour du film. Des centaines de fans se sont déplacés et pour France Inter, Anne Lamotte y était.
Dans le petit musée de Martha's Vineyard, qui organise des conférences autour des Dents de la Mer, les fans se bousculent. On ne compte plus les t-shirts avec l'immense mâchoire. Jamie a du mal à porter toutes les affiches du film et les photos du tournage qu'il va ramener chez lui au Canada.
Quand mes parents m'ont emmené voir les Dents de la Mer au drive-in en 1975, j'avais 3 ans et j'ai tout de suite mordu à l'hameçon. En 1979, ils l'ont diffusé pour la première fois à la télé. J'ai enregistré le son et le soir, je m'endormais en écoutant la cassette. Les Dents de la Mer, c'est comme un vieil ami pour moi. Le film nous embarque dans toute une gamme d'émotions sans qu'on s'en rende compte. Quand c'est fini, on se dit « Mon Dieu, je suis passé par la peur, l'excitation, le bonheur, le rire. » C'est rare au cinéma qu'un film soit parfait. Et ce film est parfait.
And it is perfect. Jamie, chanceux, il est là, au musée, quand débarque, surprise, une des stars du film. Richard Dreyfuss, 77 ans. Dans Les Dents de la Mer, il est Matt Hooper, le jeune spécialiste des requins qui, avec le shérif et le vieux loup de mer, part traquer la bête.
Matt Hooper, I'm from the Oceanographic Institute.
Je ne m'installe jamais pour regarder le film, mais s'il m'arrive de tomber dessus par hasard, je vais jusqu'au bout. Si on le regarde vraiment, on voit Steven Spielberg à l'œuvre. Parce qu'au départ, ce film, c'est quand même beaucoup de requins cassés.
En effet, sur le tournage des Dents de la Mer, 3 requins de 8 mètres chacun, mécaniques, une prouesse. Sauf que le plastique prend l'eau, le système ultra complexe de tuyaux qui les fait bouger aussi. Résultat, une phrase tourne en boucle sur le plateau.
Le requin ne fonctionne pas. Ça a forcé Steven à repenser ce qu'il allait montrer à l'écran. Et ça a donné un chef-d'œuvre. Il n'avait que 26 ans. C'est la marque d'un génie.
L'une des trouvailles du réalisateur, ne montrer le requin qu'après 1h20 de suspense. Avant cela, à la Hitchcock, il est suggéré, notamment par les deux notes inoubliables du compositeur John Williams. Une leçon de vie pour Heather, 33 ans, le requin des dents de la mer tatoué sur l'avant-bras.
C'est débile et un peu décalé, mais c'est pour montrer à quel point j'aime le film. Il y a tellement de choses qui n'ont pas marché sur le tournage, et au final, ça a tourné à leur avantage. Donc dans la vie, quand ça tourne pas rond, faut se dire que c'est peut-être pour le meilleur. C'est comme ça que je vois les choses.
Heather, prête à faire longtemps la queue devant un pub d'Edgartown, la petite ville qui sert de décor au film. À l'intérieur, séance de dédicace de Joe Alves, le chef décorateur des Dents de la Mer. C'est lui qui dessine le fameux requin. C'était il y a un demi-siècle, il a 89 ans, il reçoit encore toutes les semaines des courriers d'admirateurs et il ne comprend pas bien pourquoi cette histoire-là de monstre fascine toujours autant.
Peut-être parce que c'est une histoire simple, trois gars, tout seul, et un requin. Et le requin n'est pas créé par image de synthèse, non. Il est là, physiquement. Depuis l'arrivée des images de synthèse, il faut toujours faire plus. La simplicité s'est perdue. Donc au final, on fait toute une montagne des Dents de la Mer, mais c'était juste un petit film de requin.
C'est juste un petit film de requin, mais quand même des cris assez stridents. Anne Lamotte dans le Massachusetts pour France Inter sur les traces des dents de la mer. À suivre, d'abord avec vous, Alice Moreno, c'est Sous les radars.
Et direction les États-Unis où la police de l'immigration publie une vidéo de Noël de très mauvais goût.
Et puis la tech, la première, Stéphane Jourdain, on explore la fabrique de l'intelligence artificielle avec vous.
Vous ne le savez peut-être pas, mais l'IA, c'est très made in Madagascar.
A tout de suite, Stéphane et Alice, le temps d'écouter Amy Winehouse, c'est Wake Up Alone, il est 18h45.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. He's fiercing my dreams, seizing my guts. He floods me with dread. Soaking soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. We'll be right back.
En 2006, elle racontait qu'elle se réveillait seule. Amy Winehouse, Wake Up Alone, un des titres de son album mythique Back to Black. C'était le choix ce soir, choix musical de Djoubaka. Voici les choix de l'actu du monde, restés sous les radars avec Alice Moreno. On commence donc, Alice, avec cette musique de Noël revisitée façon blockbuster américain et le tintement, non pas des grelots ou des cloches, mais des menottes.
C'est la bande-son du dernier clip vidéo publié par LICE, la très controversée police de l'immigration américaine sur ses réseaux sociaux. Générée par intelligence artificielle, cette vidéo met en scène un Père Noël vêtu d'un gilet pare-balles transformé en agent de police. Il menotte un jeune homme, examine son dossier en garde à vue et l'emmène finalement jusqu'au pied d'un avion qui doit le renvoyer dans son pays d'origine. Et la vidéo de ce Père Noël radicalement anti-esprit de Noël est accompagnée d'un message: évitez d'être sur la liste des méchants du Père Noël, auto-expulsez-vous du pays, peut-on lire, avec la promesse d'une prime au départ volontaire de 3 000 $ au lieu des 1 000 $ traditionnellement prévus. Partez maintenant et passez Noël à la maison avec vos proches, suggère encore la police de l'immigration, faisant abstraction des réalités compliquées, voire dangereuses, auxquelles sont confrontées les populations immigrées si elles retournent dans leur pays d'origine. Le fond et la forme sont pour le moins choquants. Notons tout de même que des dispositifs d'aide au retour volontaire existent dans d'autres pays, dont la France, avec des montants qui varient, mais sans vidéo de mauvais goût à l'américaine.
On entend ici un jeune combattant des FDS, les forces démocratiques syriennes, qui chante pour le Kurdistan libre.
Il chante alors que des affrontements se déroulent à Alep entre forces kurdes et forces gouvernementales, des violences qui ont fait plusieurs morts, et désormais les combats sont aussi redoutés à Raqqa. Depuis le printemps 2025, des habitants ont constaté le creusement de nombreux tunnels aux abords et dans la ville, qui pourraient être le signe d'une militarisation en sous-sol et la préparation à des affrontements. Il s'agirait d'un vaste réseau souterrain qui s'étendrait à l'échelle régionale, selon un analyste installé à Raqqa et cité par France 24. Ce regain de tension intervient alors que les Kurdes sont censés être intégrés aux institutions civiles et militaires du nouveau gouvernement d'Ahmed al-Sharaa. Une intégration théoriquement prévue avant le 31 décembre, mais qui n'a toujours pas eu lieu. D'après plusieurs experts, deux scénarios se dessinent. Soit l'accord est prolongé de plusieurs mois pour permettre l'intégration des forces kurdes dans l'État syrien, soit le nouveau régime choisit l'option militaire pour reprendre les territoires qu'elle contrôle. Et Raqqa, contrôlée par les Kurdes des forces démocratiques syriennes, serait alors en première ligne.
Cześć moi drodzy, dzisiaj będziemy z Walentym w Moskwie próbować polską Coca-Colę, która jest dostępna w jednym ze sklepów. Zdaje się.
Aujourd'hui, nous allons goûter au Coca-Cola produit en Pologne et disponible au supermarché à Moscou.
Cet influenceur polonais découvre les différentes marques de cola disponibles en Russie et signale le grand retour du Coca-Cola, l'original. La célèbre marque américaine avait disparu des rayons depuis le printemps 2022 et le début de l'invasion en Ukraine. Les patrons du groupe décidant de fermer leur site de production basé en Russie et d'arrêter les ventes. Une marque de substitut russe avait même vu le jour, le Dobré Cola, comprenez le bon cola en français. Mais depuis l'an dernier, le Coca-Cola original se retrouve peu à peu dans les supermarchés russes grâce à ce que l'on appelle les importations parallèles, légalisées par les autorités russes et qui permettent d'importer des produits sans l'accord des propriétaires des marques. Le business s'organise entre la Russie et des pays voisins qui continuent de produire du coca, la Pologne donc, mais aussi la Géorgie ou l'Afghanistan, qui sont donc importés via des revendeurs qui ne sont pas agréés par la marque Coca-Cola, mais promettent bien des produits authentiques. Les sanctions économiques semblent donc faire le bonheur de quelques-uns via des circuits plutôt inattendus.
Authentique mais pas authentifié, tout est sur une zone grise, une zone peut-être rouge, pétillante. En tout cas, merci Alice Moreno, sous les radars, à retrouver sur franceinter.fr.
France Inter, le 18 juin.
Dans la tech la première, on parle d'une profession méconnue. Sans eux, il n'y aurait pas de ChatGPT ni tout le reste, pas de voiture autonome. Ce sont les annotateurs, ceux qui labellisent les données qui servent à entraîner les intelligences artificielles. Vous allez voir, vous allez tout comprendre avec Stéphane Jourdain. C'est ceux qu'on présentait comme des petites mains de l'IA. Ils sont de moins en moins des petites mains. Et Stéphane, de plus en plus des ingénieurs.
Oui, ce sont les travailleurs de l'ombre, ceux qu'on ne voit jamais et dont on parle rarement. Les annotateurs, maillon essentiel dans la confection des IA. Dans son livre, Les Nouveau contre-maître, Clément Pourret donne un coup de projecteur sur leur travail.
Soit c'est de l'image, donc on va passer 7-8 heures devant un ordinateur, on va recevoir des photos et puis on va découper sur l'image avec la souris la forme d'un objet et dire à quoi elle correspond. En France, ça se passe souvent à Madagascar. À Madagascar, ça va être jusqu'à 500 extraits vidéo par jour. Ou ça va être qualifier des mots. Par exemple, on va prendre un texte qui va servir à entraîner un outil type ChatGPT et on va dire qu'est-ce que veut dire ce texte. Donc on va sélectionner vraiment, tiens, tel mot, on peut l'associer au champ lexical de la haine, etc., etc.
Y aurait-il ChatGPT ou le chat de Mistral sans annotateur ?
Non, c'est la réponse simple. Les dernières estimations sont de 400 millions de personnes qui font du travail d'annotation dans le monde. 400 millions, c'est énorme.
Les anglo-saxons travaillent plutôt avec le Kenya ou l'Inde, mais vous l'avez entendu, les startups françaises plébiscitent Madagascar. Pourquoi Madagascar ?
Parce qu'à Madagascar, on a une manœuvre qui est peu chère, un droit du travail particulièrement flexible par rapport à la France, mais surtout une manœuvre extrêmement qualifiée. Il y a très peu de décalage horaire avec la France, ce qui facilite aussi le travail. Et enfin, il y a un niveau de français qui est très élevé. C'est particulièrement facile pour les startups de travailler avec Madagascar.
Et grâce à la correspondante de France Inter sur place, Sarah Tetto, nous avons pu, Stéphane, nous entretenir avec une annotatrice.
Oui, Rouva Raza Fialiman Han a 32 ans, dont 4 passés chez Inge Data, l'un des leaders de l'IA à Madagascar. Sur son écran de gauche, il y a une photo satellite. Sur son écran de droite, Google Earth.
Aujourd'hui, je travaille sur un port africain. Je suis en train d'identifier les bateaux sur le port. Là, ce que vous voyez là, au bout du ponton, il y a 4 patrouilleurs militaires. Donc, mon rôle, c'est d'identifier la fonction des navires et leur emplacement. Je la note, je le détourne, comme ça. Ensuite, je cherche sur le cahier de charge du client la classification du bateau. Et donc là, c'est un patrouilleur.
Comme vous l'entendez, c'est un travail très minutieux. Rouva doit identifier les navires parmi 100 références de bateaux.
Sur cette zone de 25 km², j'ai noté 139 bateaux. C'est un métier qui demande un bon niveau de concentration parce que sur un projet comme celui-ci, une seule erreur peut fausser toutes les données du projet.
Il faut se concentrer et il faut de sérieuses compétences. Rouva n'est pas une petite main, loin de là. Elle est diplômée en Master 2 de géographie.
Si je n'étais pas géographe, je ne saurais pas reconnaître ces zones. Aujourd'hui, le métier d'annotateur ne consiste plus à identifier n'importe quel objet, mais ça demande un niveau d'expertise.
Bref, on est loin, très loin des photos de carrefour où il faut juste identifier un feu rouge.
Et on le comprend très bien avec ce témoignage de Rouva Raza Fialimanan. Alors, est-ce un cas isolé ou le métier a-t-il changé ?
Ce travail a beaucoup changé, répond le sociologue Clément Leludec. Avec son collègue Maxime Cornet, il documente le quotidien des annotateurs de Madagascar depuis 2020.
Traditionnellement, quand on étudiait ce sujet, on parlait beaucoup de l'annotation qui était faite au début des années 2010 pour distinguer les chats des chiens sur des images. Aujourd'hui, l'IA s'applique à des cas d'usage qui sont de plus en plus spécialisés pour détecter des pathologies sur des radios, identifier des émotions dans des extraits sonores, etc. Et tout ça, ça crée des tâches d'annotation qui sont beaucoup plus complexes. De mon point de vue, on n'est plus du tout dans le travail du clic. On est dans un travail qui participe en fait à donner leur forme finale au modèle d'intelligence artificielle.
Son enquête sur place permet de mesurer le niveau de qualification des annotateurs. Résultat ?
À 75% dans notre échantillon, on trouve des travailleurs qui sont passés par l'université. Les entreprises veulent des gens qui ont des connaissances en informatique, qui connaissent le français, parfois même l'anglais, et qui tout simplement parfois ont des bac plus 2, bac plus 3, même bac plus 5 dans certaines tâches particulièrement spécialisées.
Cette espèce de vampirisation des profils les plus qualifiés, c'est un problème pour Madagascar, selon le sociologue.
Dans certains cas de figure, c'est même un peu extrême, puisque quand on a recours à des médecins pour faire de l'annotation de données pour des IA appliquées au domaine de la santé, potentiellement, ces médecins, ils peuvent aussi manquer au pays, mais c'est la même chose pour des ingénieurs, hein, qui peuvent occuper ce type d'emploi, alors que y a d'autres sujets d'ingénierie à Madagascar qui pourraient bénéficier davantage au pays.
Oui, le job est de plus en plus complexe, à tel point qu'on voit même apparaître des entreprises françaises sur ce créneau.
Oui, alors dans l'océan mondial des annotateurs, ça reste microscopique, mais je vous présente Digitani, petite entreprise dans l'Ariège, qui emploie en insertion une dizaine d'annotateurs. Sa directrice, Johanne Portefait, nous explique comment le métier a changé.
Concrètement, ça veut dire qu'on va détourer, par exemple, un bâtiment, une route, un arbre, et on va dire là, c'est un arbre, là, c'est une route, là, c'est un bâtiment. Sauf que maintenant, on fait ça de façon plus précise. On va dire ça, c'est de la végétation haute, de la végétation basse, ça, c'est un bâtiment commercial, ça, c'est un parking. C'est ça, l'annotation.
Le problème, c'est que ça coûte beaucoup, beaucoup plus cher de faire ça en France qu'à Madagascar.
Ah oui, ça c'est clair, on est sur un rapport de 1 à 30 à peu près.
30 fois plus cher en France, alors comment fait-on pour convaincre les entreprises de payer ce delta ?
Il faut apporter une qualité de service dans cette relation de proximité, ce travail en boucle courte avec les ingénieurs ou les chercheurs. Et parfois, il y a la donnée qui ne peut pas partir à l'étranger parce qu'elle est peut-être un peu plus confidentielle que ce qui part à Madagascar.
Après le slip français, la chaise française, le matelas français, voici l'annotation française.
Merci Stéphane Jourdain. On retrouve la Tech la première sur l'application Radio France.